Je veux croire et exprimer que déjà vous avez été bénis. Qu'à travers ces chants que chacun d'entre nous a entonnés avec joie, puissent être marquants dans votre vie. Un souvenir, le dernier attaché à la croix, c'est un très vieux chant. C'est dans les années où je rencontrais le Seigneur, il y a de cela bientôt 50 ans, que ce chant était là. Il est toujours d'actualité. Il est toujours, comment on pourrait dire, une réalité pour nos vies. Il a payé le prix de notre rançon. Il a donné à chacun de nous une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une foi qui doit déborder. Ce n'est pas une foi qui doit stagner. Ce n'est pas un petit ruisseau, c'est une grande rivière. Et elle peut être dangereuse parce que ça déborde partout. Dangereuse pour les païens, pour ceux qui ne croient pas, pour qu'ils puissent être bénis dans ce fleuve de foi que nous manifestons les uns et les autres et rencontrer le Seigneur Jésus. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous et je voudrais ce matin partager avec vous cette dernière prière qu'il a pu faire. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, on dit que c'est la prière sacerdotale. Cette prière, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, où le Seigneur nous parle, déjà il parlait à ses disciples et à son père. Daniel, ce matin, je ne t'ai pas entendu, Daniel. Quand tu pries, tu dis « mon père ». Hein, c'est vrai, hein ? J'étais surpris. Mais ce n'est pas grave. Je vais en parler. Parce que on entend les prières des uns et des autres, d'une certaine façon, le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus, mais le Père, notre Père. On oublie souvent de le prononcer, ce mot. Et pourtant, il est essentiel. Parce que dans cette prière, au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, simplement, je vais lire le dernier verset. Parce qu'il est assez long, ce chapitre, hein, il fait 26 versets. Mais je lis le dernier, puis après on prendra quelques versets qui sont contenus dans ce texte. Il dit ceci, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, on va dire, le « encore » n'y est pas, mais je l'ajoute, « afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Il y a à la fois du passé et du présent. Je leur ai fait et je leur ferai. C'est le futur. Et entre les deux, il y a tous les événements qui ont pu se réaliser, se faire, depuis 2000 ans, depuis que Jésus a été crucifié, où il a donné sa vie, où il a abandonné sa vie pour nous, où il a changé et transformé le monde. Quand Jésus, dans les évangiles, à partir de Matthieu, disait, il est écrit, vous aimerez vos amis et vous haïrez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Manifestez ton amour, ton pardon, ta compassion, ta miséricorde. Que de magnifiques paroles Jésus a pu prononcer durant ces 3 ans, et particulièrement ici, à la fin de sa vie, quelques jours, une journée avant qu'il soit crucifié. C'est des paroles merveilleuses qu'il a adressées à son Père. Il dit dans le verset 2, « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. » Glorifie ton Fils. Il s'adresse à son Père. Ce Père merveilleux que nous connaissons, que nous avons rencontré, qui nous a parlé, peut-être pas à tous d'une façon orale, audible, mais qui a parlé à votre cœur. J'ai achevé l'œuvre, dit-il, que tu m'as donnée à faire. Il n'y a plus rien, tout est accompli, c'est ce qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. Et nous sommes là, ici, nous tous, ici, dans cette salle, au bénéfice de cela. Chacun d'entre nous, ici, je le suppose, ou je l'espère, sait qui est Dieu et qui est Jésus. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il nous a donné. Et peut-être qu'on est en recherche. On peut être en recherche encore, mais la recherche, elle est bonne, parce qu'elle va déboucher sur quelque chose de bon. La réalité de l'œuvre de Christ qu'il a accomplie pour son Père et pour chacun d'entre nous. À ce verset 26, quand il dit « Je leur ferai connaître, afin que je sois, que ton amour soit en eux et que je sois en eux. » L'amour de Dieu, l'amour du Père. Il est venu pour faire connaître son Père. Et ce Père a parlé aussi. N'oublions pas, dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus est allé au Jourdain avec Jean-Baptiste, qu'il a été baptisé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et, écoutez-le. Et sur la montagne de la transfiguration, il a encore redit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus a montré le Père. Mais notre Père le montre aussi, d'une façon audible, à cette époque. Mais peut-être que quelqu'un parmi nous a déjà entendu la voix de Dieu s'adresser à lui. Ce n'est peut-être pas toute la vie, au longueur des jours, mais il y a des événements dans lesquels il parle. Il nous parle d'une façon précise. Il nous conduit à abandonner des choses, à plier le genou. Non pas avec une main qui est dure et agressive, mais avec une main douce. Abandonne. Abandonne ta vie et suis-moi. Jésus, le jour de sa résurrection, lorsqu'il était face à Marie de Magdala, il a dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Quelle surprise! Quelle surprise! Quand Philippe dit aussi, montre-nous le Père! Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Quelle vérité! Et Jésus lui dit, mais depuis que je suis avec toi, tu ne l'as pas vu? C'est tellement vrai. On a besoin de recherche. Aujourd'hui, dans une société que nous vivons, le Père souvent est inexistant. Je parle physiquement, je parle humainement parlant. Il y a des pères qui sont inexistants. On a besoin, frères et sœurs, chacun, d'avoir un Père. Un Père qui nous aime et qui nous apporte à chacun de nous des réponses à nos interrogations. Mon père nous a quittés il y a de nombreuses années, il avait 86 ans. Il semblait être dur, mais en fait, il m'aimait. Et quand il est parti, il est mort dans son lit, sans qu'on ait pu communiquer avec lui, moi j'étais ici à Rennes et lui était à Quimper. C'est pas évident que quand quelqu'un disparaît, que notre père disparaît sans qu'on ait pu lui adresser une parole. Je savais qu'il souffrait. Mais je veux espérer que dans les derniers instants de sa vie, il ait pu s'approcher de notre père. Oh, il a eu notre témoignage, Marie-Thérèse et moi. On a vécu, On l'a vu et on montrait un certain visage. Mais est-ce que ce visage suffit? Il faut la révélation, il faut que des choses qui, dans notre vie, sont là, soient manifestes et ressortent de nous, comme ce fleuve de foi dont je parlais tout à l'heure, afin que les cœurs soient touchés. Parfois, on peut vivre dans des regrets, parce qu'on n'a pas eu toujours la bonne parole au bon moment. On est un peu tous les uns et les autres dans ce cas-là, je crois. Personne ne peut dire, moi, je n'ai jamais dit une mauvaise parole. Mais l'amour qu'on peut manifester aujourd'hui vis-à-vis de nos proches, de nos parents, pour ceux qui sont encore vivants, ayons vraiment de l'amour pour notre père et pour notre mère. Qu'il n'y ait pas de conflits et de bagarres, on pourrait dire, parce que le père n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, quand je regarde la société qui nous entoure et que je vois la violence qui règne, quand je vois les gens qui font ce qu'ils veulent et comme ils veulent et quand ils veulent, et dès qu'on les empêche de faire quelque chose, ils se rebellent encore plus, alors que l'autorité parentale est importante. Je me rappelle toujours de mon grand-père quand c'était à la campagne. Voilà, on avait un repas de famille. On n'avait pas intérêt de bouger d'un doigt pendant à table. Hein. Et parfois, les repas duraient au moins, oui, à cette époque-là, un repas de famille, c'était au moins 4 heures. Les enfants restaient assis, ne bougeaient pas. Moi, j'étais assez turbulent. Et mon grand-père me regardait. Je n'avais pas intérêt de bouger. Je me souviens de ces scènes. Mais il y avait l'autorité, il y avait de l'amour aussi, du respect. Et on a besoin, nous, en tant que chrétiens, aussi, de recevoir cet amour du Père céleste, qui nous aime, mais qui nous demande aussi de nous discipliner. De vivre une vie qui est à la gloire de Dieu, pas une vie dans tous les sens. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a peut-être plus de 20 ans, une jeune fille qui était à l'église. Et le samedi soir, sa sortie, c'était la boîte de nuit, ou le bal à cette époque-là. Et là, elle levait les bras, elle dansait sans doute, je suppose, pas comment, je ne mettais pas les pieds. Et le dimanche matin, elle était à l'église et elle faisait de même. Qui servait-elle? C'était l'illusion, c'était une apparence, une forme hypocrite. On a besoin d'y réfléchir. Tout à l'heure, quand Laetitia a parlé, ce qu'elle a dit, il est important pour nous, frères et sœurs, que le culte ne devienne pas une tradition, ne devienne pas une habitude légale, spirituelle à la limite, je dirais religieuse, entre guillemets. Le dimanche, moi j'ai mis mon costume. La semaine, je ne suis pas habillé de la même manière, je ne mets pas la cravate, hein. Bon. Mais je me dis, le dimanche, quand je viens ici, c'est pour honorer Dieu. Bon, le costume ne fait pas toujours le moine, l'habit ne fait pas le moine, comment dire. Mais il est important qu'on vienne ici parce que Dieu est là. Et il nous accueille, il nous reçoit, avec joie. C'est là qu'on priait ensemble tout à l'heure, on disait, c'est vrai que Dieu était déjà présent en ce lieu avant qu'on y entre. Déjà, ceux qui étaient à la louange étaient en train de créer, on peut dire, un esprit, d'établir que Dieu était là à travers les répétitions. Répétition, c'est utile, mais pas des répétitions, des choses qui sont comme apprises par cœur et puis qu'on récite, comme les prières, parfois. Mais que ce soit quelque chose qui est vivant. Il était là avec nous tout à l'heure. Il est encore là. Et il nous accompagnera dehors. Il nous accompagnera jusqu'à la porte. Et peut-être il ferait même un pas avec nous dehors. Et nous dit, va avec la force que tu as. Afin que tu puisses servir, me servir comme tu le veux, toi. Dans ce texte, quand on regarde dans ce texte, encore de chapitre 17, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, les apôtres et les disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as donné. Que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus priait déjà pour nous. Il priait son Père afin que nous soyons ceux qui sont envoyés et qui vont annoncer la bonne nouvelle. Jésus ne va pas vous apparaître à chacun pour vous dire d'aller là-bas ou ici. Tout à l'heure, il parlait de la forêt. Vous savez, dans la forêt, il y a des sentiers, des sentes, et puis il y a aussi des clairières. Et des belles clairières où on peut se retrouver sous la lumière du soleil. La forêt, c'est sombre, mais la clairière, c'est clair. Et Dieu nous conduit de chacun et chacune dans des clairières particulières où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Pensons encore, je pense aux plaies d'Égypte. Il y a eu une plaie en Égypte qui était aussi terrible. Bon, il n'y avait pas des poules, il n'y avait pas des grenouilles, il n'y avait pas ceci, mais il n'y avait plus de lumière. Et que la lumière avait disparu et on pouvait toucher, on peut dire, l'obscurité. Le seul endroit où il y avait de la lumière, c'est là où demeurait le peuple de Dieu. Le seul endroit où il y avait la lumière, ça pouvait être un repère pour ceux qui cherchaient vraiment la lumière, une clairière. Et c'est la même chose pour nos maisons, nos lieux d'habitation, que ça puisse être des clairières où la lumière de Dieu est là, où le Père est vivant, présent, où il manifeste non pas un règne, mais sa présence d'amour. Jésus était avec les disciples depuis 3 ans et demi, et il n'avait pas vu le Père. Il suivait Jésus, mais on a l'impression que les apôtres n'avaient rien compris, n'avaient rien saisi de la vérité, des vérités spirituelles. Philippe était sourd, aveugle. Jean, Pierre et les autres. Mais était-il vraiment, comment on pourrait dire, converti ? Était-il vraiment à Dieu ? Appartenait-il à Dieu ou suivait-il un maître ? Il a fallu que leurs yeux s'ouvrent, mais ils se sont ouverts après la résurrection. Quand on pense aux disciples d'Emmaüs qui marchaient sur le chemin en disant tout triste, celui qui était avec nous est mort et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Jésus qui l'approche et qui le parle et qui ensuite rompt du pain et disparaît, il dit, c'était lui. Leurs yeux se sont ouverts et ils sont repartis à Jérusalem avec la joie dans le cœur, transformés. Les yeux découverts. Il y a un verset qui a touché ma vie quand je me suis converti, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui dit ceci. Quand ils lisent Moïse, un voile qui est déposé sur leur vie. Mais quand leur cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Les écailles des yeux tombent, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Pour moi, ça a été une révélation. Quand vraiment j'ai rencontré Dieu, moi qui étais un athée convaincu, quand les choses de ma vie, c'était des choses matérielles qui étaient importantes et pas le reste, la science était tout mon élément de vie, et quand Christ m'a parlé, quand Dieu m'a parlé, je veux dire plutôt, quand il m'a dit, quand je fumais mes cigarettes, 3 paquets par jour, et qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en train d'enfumer le Saint-Esprit. Il a de l'humour. Hein, tu es en train d'enfumer le Saint-Esprit. révélation, libération, une libération parmi tant d'autres, où Dieu remplit notre vie et que la lumière grandit de jour en jour. Transformation complète, intérieure. Peut-être que vous l'avez vécu vous-même. C'est formidable. Mais il faut encore le vivre. Il faut le revivre. Une affirmation. Des conseils que Dieu peut nous donner à chacun d'entre nous. D'une façon parfois surprenante. Je me rappelle toujours quand en Centrafrique, on était dans l'Oubangui, le fleuve, et on baptisait des gens qui étaient descendus dans le fleuve. Et un fleuve, ce n'est pas comme on a l'habitude, l'eau bien claire. Hein. C'était de l'eau boueuse, chargée d'alluvions et peut-être d'autres choses. Et on plongeait là-dedans. Et quand on a fini de baptiser, les gens qui étaient décidés de suivre Jésus, j'ai fait un appel. Et j'ai dit, peut-être que sur la rive, là, il y a quelqu'un qui aujourd'hui a reçu un message de la part de Dieu, lui disant de s'engager pour lui. Qu'il descende de la rive et qu'il vienne dans l'eau. Il y a un homme qui est descendu. Bon, c'est une victoire, un. Ça a pu donner après des petits. Un. C'était un pêcheur professionnel, pêcheur par ailleurs aussi sûrement. Il est descendu, il était habillé tout de noir. Chemisette noire, pantalon noir et tout noir. N'est-ce pas, Joël? Il est descendu dans le fleuve. Et on l'a baptisé. Il est remonté sur la rive, puis on devait faire la Sainte-Seine ensuite dans l'église, la petite église qui était là sur le bord du rivage. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Un homme habillé tout de blanc. Chemise blanche, short blanc. C'était le même. Mais il avait tout un symbole dans sa vie. Il est passé de l'obscurité à la lumière. Transformation de vie. Immédiate, en quelques secondes, sortir de la vie de péché et puis de violence, parce que c'était le patron, le chef de la batterie de pêcheurs qui était sur le fleuve, et il menait son monde à la baguette. Un homme transformé. Le père l'avait touché et il est devenu une nouvelle créature. Transformé et réalisant pleinement qu'il était vraiment quelqu'un de nouveau. De nouveau, de nouveau, de nouveau. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, à cette époque, mais ceux qui seront, même dans des millénaires, mais qui seront mes envoyés, afin qu'ils apportent la vérité et qu'ils fassent la révélation du Père. Le Père, notre Père. On peut réciter le Notre Père avec peut-être une certaine passion, une affirmation, on le sait par cœur. Et parfois on oublie des mots. On gomme. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, notre Père. Et puis on oublie. Vous dites quoi? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme. Le comme. Identique. Si nous ne pardonnons pas, pourquoi ne serions-nous pardonnés? Vous savez, on garde parfois des rancunes dans notre vie. Des rancunes énormes du passé. Et on en veut à quelqu'un et on en veut à quelqu'un à un point que c'est comme des liens qui sont tissés entre ces deux personnes où ils sont en train d'essayer de se séparer et c'est impossible. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ici, mais c'était bon, je ne vais pas dire le nom, mais oh, bah, si, après tout, c'est pas grave. Elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, moi, je ne l'ai pas vue. C'est une sœur de Bain-Bretagne qui s'appelle Gisèle. On avait fait une étude biblique dans les maisons sur le pardon. Et puis, on arrivait à parler de choses et d'autres. Et puis, elle dit, ben oui, moi, j'ai mon voisin. On est fâché depuis des mois, peut-être plusieurs années. Oui, parce que mon fils, en jouant au ballon, a cassé une vitre. Il a cassé une vitre, alors il n'a pas voulu rendre le ballon à mon fils. Puis ils se sont accrochés l'un à l'autre. Elle a défendu son fils et lui a défendu son verre, sa vitre. Et c'est resté dans la situation où ils étaient côte à côte, ils étaient mitoyens et c'était là. On ne se regardait pas, on se pouvait se croiser, pas un mot. Puis à travers cette étude, elle dit, je décide, je vais. Si je le rencontre, je lui demande pardon pour ma bêtise, pour ma façon. Elle prend sa voiture, puis sur le chemin, la route qui allait, je crois, vers Messac, elle croise la personne. Mais avant qu'elle s'arrête, lui s'arrête. Donc ils s'arrêtent tous les deux. Le monsieur descend de la voiture, le voisin, vient vers Gisèle et lui dit, pardonne-moi Gisèle, depuis ce temps-là, c'est quand même stupide ces histoires qu'on entend. Ah, étonné! C'est elle qui voulait aller demander pardon. Et c'est la personne elle-même qui vient. Comment Dieu avait travaillé les cœurs. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on décide quelque chose, qu'on veut honorer le Père, mais Dieu fait que cet honneur qu'on lui rend soit compris aussi par quelqu'un d'autre, par la personne qui est notre adversaire. Et là, c'est une immense victoire. Dieu répond. Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer, nous, dans nos yeux. Parfois, on est dur comme des... Hein. Mais avant ma conversion, je me rappelle toujours d'une anecdote. J'allais toujours chez le même boucher. Puis un jour, j'ai acheté de la viande. Il me dit, oh, elle est excellente. Quand j'arrive à la maison, on la cuit. Mon Dieu. Catastrophe. Je lui en ai voulu. J'ai plus jamais été dans son magasin. Quand on pense à notre attitude, mais je n'étais pas converti. J'étais bien plus jeune. Les années ont passé, ils ont quitté la ville, le village. Bon, je ne les ai pas revus, mais j'ai compris que il faut que nous veillions quand même sur nos réactions et nos comportements pour que la bonne nouvelle soit annoncée à ceux que nous rencontrons. Et que nous puissions leur donner manifester le visage de ceux qui croient, malgré tout et contre tout. Une véritable révélation qui doit être faite à chacun de nous dans notre comportement quotidien. Si nous sortons d'ici tout à l'heure en ayant encore la rancune pour quelqu'un, attention, hein. Mais si vous décidez de le faire, faites-le. Ne dites pas demain ou après-demain, mais décidez de le faire. Au moment où Dieu va vous le montrer. Et le faites-le. Faites-le. Être converti, c'est changer de direction. Être converti, donner sa vie, c'est la perdre. Donner sa vie, c'est la perdre. Ce n'est pas espérer qu'elle sera encore bien meilleure qu'elle était auparavant. Peut-être, oui. Mais on la perd, notre vie, quand on la donne, pour en trouver une nouvelle. Ce n'est plus l'ancienne. Hier encore, en discutant, on mangeait avec une sœur, et elle disait, oui, le bougre, il sait bien nager, hein, le vieil homme. Hein, la phrase de Luther, quand Luther disait, j'ai voulu, le vieil homme, j'ai voulu le noyer, mais le bougre, il savait bien nager. Notre vieille nature est toujours là, frères et sœurs. Mais si nous avons trouvé en Dieu notre Père, nous prenons sa nature. Nature, sa nature, pas notre ancienne nature. Nous devons des créatures nouvelles, changées, transformées. Et cela, si nous laissons Dieu vraiment nous le révéler. Vous savez, on aurait tendance à parler beaucoup à Dieu et ne pas l'écouter lui. Il y a des gens qui sont spécialistes pour parler sans cesse et on n'arrive jamais à mettre un mot. J'ai eu l'occasion de recevoir et d'entendre des personnes partager ça lorsqu'ils sont livrés à leur... Ils disent tout et tout, mais on dit « mais, oui, ils continuent. » Et on n'arrive pas à placer un mot. Mais Dieu, c'est la même chose, frères et sœurs. Il est écrit qu'on n'a pas à multiplier les paroles, mais qu'on a à être attentif à sa voix pour l'honorer et pour le glorifier, lui, lui seul, lui seul. Il y a des tentations dans le monde évangélique aujourd'hui où ce n'est pas Dieu qu'on honore, mais c'est le pasteur ou c'est le responsable ou, l'apôtre, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et quand il disparaît, la foi disparaît. Mais Dieu est éternel. Et c'est lui qu'on doit honorer. Je me rappelle toujours de ce texte, de cette anecdote avec Spurgeon, ce pasteur un revivaliste, comme on disait à l'époque, anglais, qui était tout jeune, qui s'était engagé et qui avait un ministère puissant. À 19 ans, il était le pasteur de la plus grande église de Londres. À 19 ans. Bon, on dit, c'est pas possible. Et si. Parce qu'il y avait sur sa vie un tel, comment dirait, aura de Dieu, Dieu présent en lui. Et un homme était venu à Londres pour visiter les églises un peu... revivaliste, hein. Et puis il dit il y avait deux pasteurs, deux prédicateurs qui étaient connus, là. Alors il va chez le premier, et puis cet homme dit en partant, dit, ah, cet homme parle bien de Dieu. Jésus. Il parle bien, c'est formidable. Et puis il va voir, écouter Spurgeon, et puis il dit, Dieu est grand. Dieu est grand. La différence, vous la voyez. Où c'est Dieu qui est annoncé et la personne qui s'efface, où la personne se met en avant en se servant de Dieu. On ne peut pas se servir de son Père. On doit le respecter. On doit l'honorer. On doit le glorifier, notre Père céleste. Notre Père de sur cette terre, on doit l'aimer, même s'il est parfois méchant. On doit l'aimer. Et lui apporter à travers notre vie, notre vie de fils et de filles, manifester qu'on le respecte néanmoins. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour il nous appelle. Voyez de quel amour il nous a donné, chacun d'entre nous. Moi, je me dis, depuis ces années que j'ai vécu avec les maladies que j'ai pu avoir, et comment Dieu m'a gardé encore en vie, je dis, hein, il est gentil pour moi. Hein. Il aurait pu se débarrasser de moi il y a longtemps. Hein. Il veut dire, si tu te crois indispensable, je te prends. Quelqu'un a dit une phrase un peu, bon, un peu humour noir, mais les cimetières sont remplis de gens indispensables. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ils sont partis un jour. Ils sont partis un jour. Quelqu'un d'autre est venu. Quand on regarde tous les siècles qui se sont déroulés depuis la naissance de Jésus et sa résurrection, quand on voit toutes ces personnes, tous ces personnages, ces héros de la foi, Ils ne sont plus indispensables, mais ils nous apportaient un témoignage de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils vivaient dans le quotidien de leur vie. Des transformations qu'ils ont opérées. Moi, j'aime bien le livre de témoignages. On voit des personnes qui ont décidé, qui ont vraiment compris que Dieu était leur père et qu'il fallait le suivre, quoi qu'il en coûte. Je disais encore, on parlait aussi de du Sadhu Sundar Singh, cet hindou, un hindouiste forcené et qui voulait arrêter, dire je désire maintenant une réincarnation. Alors il est allé sur les lignes de chemin de fer et puis il s'est allongé sur la voie. Attendant que le train passe, il dit je vais mourir et puis je vais me réincarner quelqu'un encore de plus supérieur au précédent. Et puis Jésus lui est apparu. Il lui a dit, tu ne mourras pas, tu me serviras. Oh. Il s'est levé sur la ligne et puis il est rentré à la maison et puis il a expliqué aux parents qu'il avait fait une rencontre particulière. Oui, chez des hindouistes. On a cherché par tous les moyens à le faire mourir. On l'a empoisonné, rien. Vivant. Alors on l'a mis dans la forêt où étaient les tigres. Il va se faire manger, on sera débarrassé de lui sur la réincarnation. Mais finalement, non, aucun animal sauvage ne s'est attaqué à lui. Et il a marché dans la forêt et il est arrivé dans une mission protestante. Et là, ben, il a été enseigné. Il avait rencontré Jésus, mais il ne savait rien de lui. Rien. Et il a servi Dieu avec grande puissance. C'était dans les années 20 et quelques. Hein. Ça fait presque un siècle. Mais il a vécu des choses extraordinaires en tant qu'annonçant la bonne nouvelle. Il a écrit ce chant, « Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. » Il y a un chant dans les Ailes de la foi. Quand on parle de ce chant, c'est un homme qui a connu Jésus, qui l'a rencontré et qui lui a donné un avenir, une espérance, qui n'était pas celle d'une religion, mais celle d'une foi véritable, profonde et enrichie. Il a rencontré le Fils qui lui a annoncé le Père. Voyez, frères et sœurs, de quel amour le Père nous a aimés. Il nous a aimés, il nous aime encore aujourd'hui. Il veut pour nous tous que la puissance de son Père soit manifeste dans nos vies. Peut-être que parmi nous, ce matin, il y a quelqu'un qui a un appel particulier, qui ne le sait pas encore, et que Dieu va appeler à servir d'une façon particulière. Il ne sait pas, il ignore. Peut-être quelqu'un pense qu'il a un certain appel et ce n'est pas celui-là. Que Dieu veut qu'il soit autre. Soumettons-nous à ce qu'il est, notre Père, qui veut conduire notre vie. Aujourd'hui, les enfants sont très indépendants. Autrefois, les fils et les filles étaient soumises jusqu'à leur majorité et au-delà. Vous savez, à mon époque, la majorité, c'était 21 ans. Alors, hein, maintenant, on l'a vu à 16. Et même, on le voit à 10, des fois. Quand on voit des gamins en classe, je me dis, oui. J'ai vécu une bonne époque comme enseignant. Ça fait 22 ans que je suis en retraite. Quand j'entends tout ce qui se passe par ailleurs, je me dis... Nous, les chrétiens, nous avons une tâche à accomplir. C'est de manifester au monde que nous sommes des disciples, pas simplement de Jésus-Christ, mais notre Dieu, notre Père, et que nous devons montrer un visage qui correspond à ce que l'Écriture dit. Quand Dieu a parlé au peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, si vous me bénissez, si vous me servez, si vous me louez, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Attention, pas d'orgueil, hein. On peut être la tête avec beaucoup d'humilité. C'est ça qui est important. Vous voyez, ce matin, ce que j'ai partagé, j'ai vécu cela durant toutes ces années où j'ai vu comment Dieu était pour moi un père compatissant qui m'aimait et qui voulait que je continue, qu'on puisse continuer encore à l'honorer, à le servir. En 2003, quand j'ai eu ce grave infarctus, et que je suis sorti de mon corps et que Dieu m'a réintégré dans mon corps, ça fait 16 ans, bientôt, et qu'il m'a donné de pouvoir continuer à vivre. En 2014, quand j'ai fait ma septicémie grave, et qu'il m'a redonné encore la vie, je dis, mais il tient à moi, hein. Je suis là. Je ne sais pas combien d'années Dieu peut me donner, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse toujours être des témoins. Des témoins pour l'annoncer, son œuvre. Annoncer qu'il est le Tout-Puissant, mais le Père plein de compassion et de miséricorde. À la fois puissant, mais à la fois généreux, plein de bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, dit l'Écriture. Elles se renouvellent chaque matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, frères et sœurs. Allez bien. Nous te bénissons, Seigneur.